Sociologie, la chronique pour la paix. Avec ce matin, Uzi Meyerson. Bonjour.
Bonjour Lise. Alors, bonjour à tous.
Uzi Meyerson est donc en studio avec nous et nous avons ce matin une invitée et non des moindres. Il s'agit de Myriam Darmoni Charbit que je vous laisse nous présenter, Uzi.
Eh bien, Myriam Darmoni Charbit a investi 20 ans de sa vie à encourager le dialogue et l'apprentissage commun entre juifs et arabes, israéliens et palestiniens. C'est une pédagogue spécialisée dans le dialogue social intercommunautaire. Récemment, elle a été directrice des études en apprentissage civique et dialogue social au Centre de technologie des sciences de l'éducation à Tel Aviv. Et elle a été également maître de conférences en pédagogie à l'Université ouverte d'Israël. Alors, vous m'entendez, Myriam ?
Oui, je t'entends très
oui, bien. Oui, bonjour. Bonjour, Myriam
Darmoni-Charbit. Alors, d'abord, constatons qu'en Israël, tous sont étourdis par la tenue d'une guerre que l'on ne prévoyait pas. Mais ce qui inquiète le plus les Israéliens, c'est la poussée de violences racistes qui a traversé le pays pendant qu'à Gaza, Tzal affrontait le Hamas. Arabes contre juifs, juifs contre arabes, des morts et des blessés de deux côtés. Cela s'est déroulé dans presque toutes les villes mixtes du pays, Jérusalem, Loud, Akko, Yafo. Et il y a eu aussi des tensions au cours de ces dernières années. Mais cela s'est déroulé aussi dans des cités réputées pour leur coexistence pacifique, comme Haïfa et d'autres encore. Alors Myriam Darmoni Charbit, avez-vous été surprise par cette violence civile en Israël ? Êtes-vous inquiète et comment réagissent vos concitoyens arabes après ces événements ?
Écoutez, oui, bien sûr, j'ai été...
Quel soupir !
Oui, quel soupir !
J'ai été surprise par l'ampleur des émeutes et des actes de violence. Évidemment, je suis très inquiète, mais en même temps, malheureusement, du fait de mon travail dans le domaine depuis de nombreuses années, c'est difficile d'être surpris. Parce qu'en fait, on se rend compte que, on sait depuis longtemps que ce travail sur l'éducation à vivre ensemble et surtout le fait d'organisation de la société civile et que le ministère de l'Éducation investit très très peu de moyens et d'intentions et de travail dans ce domaine-là. Et donc, quand on a une société israélienne qui est tellement divisée, et quand on souffre, en fait, ces deux dernières années d'une accumulation de crises, donc évidemment la pandémie, la crise donc de santé, la crise politique, la crise politique ont en fait exacerbé les tensions dans la société israélienne. Et quand on rajoute là-dessus, évidemment, les tensions qu'on a eues pendant tout le mois de Ramadan à Jérusalem, et au final cette nouvelle explosion donc de violence qui a été très très forte cette fois-ci avec le Hamas, les missiles, ça a été particulièrement difficile. Donc vous dire que je suis très étonnée, très surprise, non, pas vraiment, parce qu'au final c'est vraiment un sentiment de cocotte minute qui a explosé. Et c'est très inquiétant et on aimerait penser que ça va créer une prise de conscience et qu'on va commencer beaucoup plus sérieusement au ministère de l'Éducation à s'occuper, à investir dans le vivre ensemble.
D'accord. Écoutez, bon, j'ai lu, il y a eu un article dans le Monde d'un sociologue que vous connaissez, c'est de l'Université Bar-Ilan, Ilan Grezalmer, et lui, il écrit dans l'article à ce sujet que la situation est particulièrement dramatique. Et au moment où je lisais cet article, j'écoutais à la télévision une chaîne franco-israélienne, un journaliste arabe qui est rédacteur en chef de la chaîne arabe de cette journal, de cette télévision franco-israélienne, oui, qui disait ceci, je le cite. Il s'agit de minorités de jeunes chômeurs délinquants et il ne faut pas exagérer le phénomène. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qui croire ?
J'imagine que c'est Ali Wated, oui.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Donc, il a raison. Je veux dire, quand on regarde qui sont les... Moi, j'étais dimanche à la maison du président. Le président Rivlin a été vraiment la seule institution de l'État qui, ces dernières années, a investi dans ce qu'il a appelé l'espoir israélien, Tikva Israélite, et il a et donc il a créé des partenariats avec des fondations philanthropiques qui ont créé donc des initiatives avec avec des directeurs d'école, avec les collèges d'enseignement, avec avec beaucoup d'institutions en Israël, et donc dimanche il a invité tous les professionnels de la chose à venir à Jérusalem à la maison, donc il a accueilli cette conférence en urgence. Et on était à peu près 200 personnes. Il y avait donc des directeurs d'école, des professeurs, il y avait des universitaires qui travaillent sur la question. Et l'idée était donc de proposer qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et moi, autour de la table donc, que je facilitais, il y avait 10 directeurs d'école. Il y avait des directeurs de Ramleh, qui est l'une des cités mixtes dans laquelle il y a eu des événements il y a eu beaucoup de violence. Pendant ces 15 jours de violence, il y avait des directeurs de Jérusalem Est et Ouest, pareil, donc la ville la plus tendue du pays. Et puis aussi, il y avait des directeurs de Kfar Kassem, de Hod HaSharon et Kfar Saba, là, pas loin de chez moi. Et puis le plus intéressant, à mon avis, c'était un directeur d'une école à Bnei Brak, qui a aussi parlé de son point de vue. De ce qui se passe dans la société aussi ultra-orthodoxe. Parce qu'il faut comprendre que tout le monde souffre de cette situation et qu'on est empêtré dedans et qu'on n'arrive pas vraiment à s'en sortir. Alors c'est vrai que quand Ali Wattet vous dit les jeunes Arabes qui sont impliqués dans ces affaires sont des jeunes Arabes qui ont entre 16 et 20 ans, qui ont quitté l'école, qui sont au chômage, qui voient qu'à l'intérieur de la société arabe, les délinquants, ceux qui perpètrent des crimes terribles à l'intérieur de la société arabe, sont ceux qui ont des belles voitures et beaucoup d'argent. Et donc, eux, on sont sortis dans un espèce de ras-le-bol parce que ces crises à répétition, le fait qu'ils aient été pendant un an sous pression dans la crise, dans la pandémie, etc., c'était comme un exutoire. Mais malgré tout, c'est très inquiétant. Et de l'autre côté aussi, c'est très inquiétant. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des jeunes, aussi à peu près du même âge, entre 16 et 20 ans, qu'on appelle parfois la jeunesse des collines, soit arrivés, donc qui habitent dans les territoires. Donc
ils avaient 20 ans, ils en ont 40 aujourd'hui.
Quand on regarde les images. Des hommes religieux qui étaient impliqués dans les violences, on se rend compte que la plupart, bon évidemment il y a des meneurs qui sont plus âgés, mais la plupart sont assez jeunes, et donc c'est vrai que d'abord ce sont tous des hommes, peut-être que c'est une chose aussi à retenir que les femmes sont moins enclines à aller vers la violence, mais en tout cas
ce n'est pas faux, hein. Ce n'est pas faux, et souvent les sociétés sont plus apaisées, on va dire, quand les femmes ont un certain pouvoir, voilà.
Exactement, ouais. Et je pense que quand on regarde les images du lynch de Bat Yam, quand on regarde les images des agressions sur les maisons, sur les voitures, etc., on constate qu'il y a un profil, de marginalité, de délinquance, etc. Mais c'est pas une raison pour ne rien faire.
Mais alors justement, quelles peuvent être les solutions ?
Alors moi je peux vous faire part des réflexions que j'ai entendues de la part de ces 10 directeurs et directrices d'école dimanche, qui disaient tout d'abord il faut faire de ce sujet-là une priorité. Il faut arrêter de penser que c'est pas une priorité et que ça va. Les directeurs d'école, les profs vont se débrouiller, vont trouver. Non, il faut que ce soit une priorité. C'est-à-dire qu'il faut que vraiment les profs qu'il y ait des investissements, que les profs soient formés, qu'il y ait des budgets pour engager ces rencontres. Moi, pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé dans ce domaine-là et j'ai pu travailler seulement grâce à la philanthropie. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui est particulièrement douloureux pour moi. J'ai commencé à travailler à Ramleh en 2012. Donc le ministère de l'Éducation va me demander de travailler à Ramleh. On a commencé à faire dialoguer les directeurs d'école, puis les profs. Puis ils ont créé des cours ensemble d'anglais, de maths, des cours de sport ensemble, des activités, par exemple des randonnées, des classes ensemble. Bref, j'ai réussi à avoir pas mal d'argent pour toutes ces activités et aussi pour l'accompagnement pédagogique de ces écoles. Au terme de 3 ou 4 ans, les philanthropes ont commencé à dire bon voilà, on a investi 3 ou 4 ans, ça suffit. Maintenant c'est le ministère de l'Éducation qui doit prendre le relais. Et là, a commencé pendant... J'ai vraiment fait des efforts très importants pour continuer. Ça n'a pas pu continuer parce qu'ils n'ont pas trouvé les budgets. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'il n'y avait pas vraiment une... Il y avait le sentiment que, OK, on a planté les graines, maintenant ça va aller. Mais dans une ville comme Ramleh, qui est une ville pauvre, où il y a un amoncellement de familles avec des problèmes très lourds. À Ramleh, il y a eu des vagues d'immigration. C'est aussi à Ramleh qu'on a installé beaucoup, plusieurs dizaines de familles de Palestiniens, de Judée, Samarie et de Gaza qui avaient collaboré avec Tzal et dont les vies étaient en danger. En Palestine, et donc du coup on les a amenés à Ramleh. Et il y a d'autres aussi, il y a beaucoup de familles avec énormément de problèmes. Dans une ville bourgeoise, les résidents n'auraient pas accepté d'accueillir autant de familles difficiles dans une ville aussi petite, avec aussi peu de moyens, et avec une population arabe qui fait à peu près 30% de la population de la ville, qui est une population très très pauvre. Avec un, moi qui ai travaillé pendant de longues années à Ramleh, j'ai eu le cœur brisé quand j'ai compris que ça allait s'arrêter. Et c'était d'autant plus triste que la même année où ça s'est arrêté, la ville a reçu du président Rivlin le prix de l'éducation Vivre Ensemble, le prix de la maison du président pour le Vivre
Myriam,
Ensemble.
Myriam, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que ces émeutes racistes sont uniquement liées à des questions sociales? Est-ce qu'il n'y a pas un rôle de la religion dans cette flambée de haine? Est-ce que les émeutiers arabes étaient tous des islamistes sympathisants du Hamas? Est-ce que les émeutiers juifs étaient tous des ultranationalistes religieux? Est-ce que ça a joué un rôle?
Pour les juifs, je pense que c'était plus clair que c'était des ultranationalistes religieux. Beaucoup de jeunes qui arrivaient d'implantations très militantes. Pour les arabes, c'est beaucoup plus fluide. Il y a eu évidemment, il y en avait certains qui évidemment étaient très 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 dans le soutien
du Hamas,
de l'agression du Hamas sur Israël, mais il y en avait d'autres pour qui vraiment j'ai le sentiment que Ali Watan a raison, que c'était juste allez, on va sortir dans les rues, on va foutre le bordel, on va mettre à feu à sang, comme ça on sera entendu, quelqu'un comprendra que ça va pas ce qui se passe, qu'il faut s'occuper de nous, parce que il y a des délinquants, des vrais délinquants purs et durs, mais quand je parlais donc dimanche avec une directrice d'école à Ramleh, elle me disait oui, mais il y en a aussi qui sont des jeunes qui s'il y avait des programmes pour les cadrer, leur donner un métier, les encourager à construire une vie avec un plan de vie, ben, ils seraient ravis de le faire. Seulement maintenant, au terme de cette pandémie, la société arabe est encore plus appauvrie qu'elle n'était auparavant. Il y a encore plus de chômage qu'il y avait avant dans la société arabe. Et donc, il faut vraiment investir, mais beaucoup. Et la crise politique, le fait qu'on n'ait pas de...
Voilà,
de
la question
budget,
politique, on en parle pas beaucoup. On a parlé de la question sociale, éducation. Il nous reste une minute pour parler de la question politique, car il y a un contexte politique.
Ben oui, la crise politique crée un blocage affreux. C'est-à-dire que quand ça fait, c'est la troisième année qu'on a en fait seulement le budget qui a passé il y a 3 ans divisé par 12. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte le fait qu'il y a plus d'Israéliens, qu'il y a une pandémie, qu'il y a énormément de problèmes sociaux et qu'il faut investir beaucoup d'argent maintenant dans cette problématique sociale et éducative. Et malheureusement, on ne voit pas la fin de la crise politique. On ne sait pas s'il va y avoir maintenant un gouvernement.
Mais est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé à Jérusalem, est-ce que ça a été l'allumette qui a explosé le baril de poudre sociale? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il y a eu une espèce de manipulation politique? Il y a certains observateurs qui le disent.
Il y en a certains qui le disent. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de maladresse. Ça a commencé avec l'histoire des barrières que la police a posées juste à l'endroit où les jeunes de Jérusalem-Est s'asseyaient entre 5 et 7 quand les deux dernières heures difficiles du Ramadan, et ça a créé une tension. Ensuite, il y a eu tout ce qui s'est passé autour des évictions des familles de Sheikh Jarrah qui ont dit, et ce qui se dit à Jérusalem, c'est vous récupérez les maisons de Sheikh Jarrah, mais les maisons de Baqa et Mekrefaïm et Talbiya, nous, on ne pourra jamais les récupérer, c'est injuste. Ça ne se dit pas, vous ne l'entendez pas, ça. Personne ne parle de ça. Qu'en 48, il y a eu effectivement des échanges de population à Jérusalem, mais que les maisons qui ont été récupérées donc par les par Israël. Non, personne ne parle de les rendre aux Palestiniens qu'elles ont été prises. Donc le fait que on utilise la force de notre de notre pouvoir judiciaire pour faire des actions qui mettent de l'huile sur le feu, tout simplement.
Alors ça,
on va terminer, Myriam, parce que le temps est imparti. J'espère qu'on aura encore l'occasion de se parler pour parler de ces problèmes, parce qu'il faut pas, il faut encore en parler pour qu'on puisse
bien sûr
trouver des solutions. Mais enfin, il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a eu une manifestation samedi dernier à Tel Aviv et c'était très grand. Il y avait beaucoup de monde, juifs et arabes. Voilà. Merci Myriam.
Merci Myriam d'Harmonie Charbit d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir.
Bonne semaine à tous.